Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leurs témoignages de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 de La tête en mer avec Noémie, une jeune femme pleine d'énergie que j'ai eu la chance de rencontrer au salon de la plongée et avec qui j'ai pu parler d'un sport que je ne connaissais pas. Ce sport, c'est le tir sur cible subaquatique, une discipline où l'on s'immerge en apnée en piscine pour tirer à l'arbalète sur une cible. Dit comme ça, ça paraît tout bête, mais vous verrez grâce à Noémie à quel point cette activité est complète et peut faire beaucoup de bien. Testée et approuvée de notre côté, puisqu'on a eu la chance de faire une initiation au salon de la plongée avec Marine. Et détrompez-vous, pas besoin d'être chasseur pour pratiquer ce sport. Je vous laisse vous immerger et découvrir cette discipline avec Noémie. Bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Bon, j'espère que tu vas bien.
Je vais très bien.
Bon, génial. Mais je suis ravie de te retrouver. On s'est rencontrées toutes les deux sur le salon de la plongée en mars 2022, du coup, à Paris. Yes. Tu m'as fait découvrir une activité que je ne connaissais pas du tout. Tu m'en as parlé avec passion pendant au moins 10 minutes. Je me suis dit, arrête-toi. Tu sais quoi? On va faire un épisode ensemble.
D'accord. Oui, c'est vrai.
Et cette activité, du coup, c'est le tir subaquatique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce sport ?
Oui, alors le tir sur cible subaquatique, c'est une discipline qui a été inventée il y a à peu près 30 ans par des chasseurs pour s'entraîner justement pendant les périodes hivernales, etc. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on retrouve aussi… alors ça, j'ai appris ça récemment parce qu'en fait, ce qui est super cool dans cette communauté, c'est que… il y a un partage incroyable et que du coup, j'avais demandé des anecdotes sur le tir et il y a des gens qui en pratiquent depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et j'ai Nathalie qui dirige la section du tir sur cible dans mon club qui m'a raconté une histoire qui m'a fait beaucoup rire. Elle connaissait en fait quelqu'un au CODEB 92. CODEB, c'est toute la commission du tir sur cible dans le 92. Donc dans les Hauts-de-Seine, qui, dans les années 60, lui avait dit qu'ils avaient commencé à tirer sur des pneus en piscine à Puteaux pour pouvoir s'entraîner. Alors, ça ne se fait plus, hein, mais du coup, j'avais trouvé ça super marrant de savoir ça, parce que même si ça existe depuis 30 ans et que ça se développe depuis 30 ans avec un règlement, etc., il y avait quand même des petites histoires en piscine avant aussi. Donc, je trouvais ça… je ne le savais pas avant, il y a quelques temps. Donc, je trouvais ça marrant de t'en parler aussi.
Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement… Donc, on n'a plus du tout ces pneus sous l'eau hein, quand on pratique du tir sur cible.
Oui.
C'est des cibles comme du tir à l'arc, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est des… donc, on tire sur ce qu'on appelle des plastrons, où il y a des autocollants qui ont été créés par la Fédé avec 5 visuels. Donc, en fait, c'est une cible avec 5 petites cibles dessus sur laquelle on va pouvoir viser. Et selon les épreuves, on va devoir viser sur ces cibles-là à différents endroits. Mais c'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les pads, donc ce qu'on appelle les pads de tir, donc c'est les cibles, c'est la structure sur laquelle on va avoir les plastrons où on tire, c'est pas, y a pas de normes. C'est encore en définition, c'est encore en travail, parce que comme c'est une discipline toute jeune, il y a encore des recherches sur comment les rendre plus légers, comment les rendre plus amovibles aussi pour pouvoir les déplacer en compétition, etc. Parce que comme c'est encore en construction, enfin la discipline, il y a encore peu d'adhérents, etc. Il y a par exemple pour les compétitions des prêts entre les clubs sur les différents pas de tir pour pouvoir en faire.
Tu parlais d'épreuves. Il y a différentes épreuves du coup sur ce sport.
Oui, c'est ça. Alors il y en a 4 qu'on va retrouver en compétition. Il va y avoir le biathlon, le super biathlon, la précision et le relais. Alors le tir sur cible, c'est un sport individuel, mais le relais, c'est un sport qui va se pratiquer à plusieurs compétiteurs. Donc, c'est quatre compétiteurs qui vont aller tirer les uns à la suite des autres sur la même cible pour toucher les différents visuels deux fois. Donc, il faut une grande coordination aussi entre les tireurs pour pouvoir ne pas viser dans le même visuel. Donc, c'est hyper intéressant justement de pouvoir regrouper tous les compétiteurs sur une même épreuve qui puissent tirer ensemble et que il puisse y avoir cette cohésion. Et par contre, le biathlon, le super biathlon et la précision, c'est des épreuves qui se font individuellement. Donc la précision, comme son nom l'indique, c'est une épreuve qui dure 10 minutes et on doit faire 10 tirs en 10 minutes. On dirait pas comme ça, mais franchement, ils sont super rapides. Moi, je sais pas comment ils font. Alors, pour information, moi, je fais pas de compète.
D'accord.
J'y vais qu'en loisir. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir aider sur de l'arbitrage et pour pouvoir juger les compétiteurs. Et ils vont à une vitesse où je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. Donc après, c'est accessible à tout le monde.
Il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, cette activité se pratique en apnée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller s'immerger même pas profond, quoi, à un mètre. Vous allez plus profond parfois.
Oui, on a plus profond. Par exemple, nous, dans la piscine d'Anières, je crois que c'est entre 2 et 3 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, on peut tirer dans différents types de bassins. On s'adapte, en fait, en fonction des différents... déjà, des différents environnements qu'on a, parce que les piscines ne sont pas tous égales au niveau des profondeurs. Et aussi, par exemple, on peut faire des initiations à de l'handisport, où là, il faut des bassins qui sont quand même beaucoup moins profond pour pouvoir justement s'adapter, ou aussi pour les jeunes enfants, puisque le tir, on peut commencer en non perforé à partir de 8 ans. Donc, ça commence très jeune. Par contre, c'est du non perforant, donc ça veut dire que la flèche rebondit sur la cible, il n'y a pas de risque, etc. Mais du coup, pour ces enfants-là, il faut aussi pouvoir s'adapter. Et après, ça commence dès 8 ans et il n'y a pas de limite d'âge. Donc, dans notre club, par rapport à l'âge, par contre, ça va dépendre des clubs et aussi des restrictions qu'il peut y avoir dans les piscines. Nous, l'âge minimum dans mon club à Anières, c'est 14 ans. Et après, ça va jusqu'à... y a des retraités, donc je n'ai pas leur âge précis. Mais je sais que ça va jusqu'à ce qu'on puisse tenir en fait, l'arbalète et continuer à tirer. Donc, voilà.
Et justement, qui pratique ce sport? Est-ce que c'est plutôt... Donc, tu as parlé de l'histoire un peu de ce sport qui a été créé par des chasseurs. Donc, j'imagine que c'est des chasseurs qui chassent l'été, mais donc, du coup, pour ne pas perdre la main, on va dire, se mettre en piscine l'hiver pour continuer à s'entraîner. Toi, je ne suis pas sûre que tu sois chasseuse. Est-ce que ça a été, du coup, un peu démocratisé et ouvert à d'autres types de sportifs?
Oui, tout à fait. Alors, en région, on va retrouver quand même pas mal de chasseurs parce que, du coup, c'est proche de la mer. Donc, forcément, quand c'est proche de la mer, il y a beaucoup de gens qui viennent de la chasse. Par contre, en Île-de-France, par exemple, on a très peu de chasseurs. Dans mon club, on est... une bonne vingtaine, voire peut-être trentaine, et je pense que sur les 30, il y a peut-être un ou deux chasseurs. Après, il y a beaucoup d'apnéistes qui se sont lancés dans cette discipline-là, parce que du coup, ça allie, comme tu disais, l'apnée et le tir, puisque j'en ai pas parlé, mais dans l'épreuve de biathlon et de super biathlon, il faut faire, alors dans l'épreuve de biathlon, il faut faire 15 mètres d'apnée avant de tirer, et il faut le faire 3 fois, et dans l'épreuve de super biathlon, il faut faire 5 tirs avec 10 mètres d'apnée avant. Et c'est vrai que c'est super physique pour le coup. Donc après, tout le monde, il n'y a pas besoin non plus d'un niveau d'apnée de champion de France, mais c'est quand même assez physique. C'est pas mal, c'est costaud.
Du coup, quand tu pratiques ce sport, tu t'entraînes, tu as également des entraînements à la fois à l'apnée et à la fois à la précision, du coup, pour aller tirer sur la cible.
Tout à fait. On fait des entraînements d'apnée. Alors après, ça va dépendre de comment se décomposent les séances dans les différents clubs. Nous, dans le mien, on commence par une séance d'apnée pour pouvoir se détendre, pour pouvoir commencer à ralentir les battements du cœur, etc. Et après, on va passer sur de la précision. Et quand il y a les entraînements, là, en ce moment, il y a les entraînements pour les championnats de France, on s'entraîne en conditions réelles, donc avec l'apnée et le tir, pour justement pouvoir gérer les deux. Donc ouais. Mais il y a effectivement une grosse partie apnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, du coup, comme moi, des plongeurs. Moi, je viens de la plongée à la base. Je suis niveau 3 et j'ai découvert ça totalement par hasard parce que dans le club dans lequel j'étais à l'époque, il y avait quelqu'un qui faisait des initiations. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que c'était au club de Rueil-Malmaison. Et la personne s'appelait Jean-Claude. Et je l'ai retrouvé quand je suis arrivée à Anières, puisqu'il tirait aussi à Anières. Donc j'étais, et maintenant il est dans le sud de la France parce qu'il a déménagé, donc c'était très marrant. Il a développé le tir sur cible, il aide à développer le tir sur cible dans dans le sud.
Donc c'était une initiation pour toi au sein de ton club de plongée bouteille.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et j'ai complètement accroché pour le coup. J'ai pas décroché depuis.
Je peux comprendre, parce que je ne sais pas si je te l'ai dit du coup, mais le lendemain qu'on s'est rencontrés sur le salon de la plongée, c'était le lundi, il y avait beaucoup moins de monde, et du coup, il y a cette énorme piscine au salon de la plongée qui, moi, m'a impressionnée. Je me dis, mais on est dans un salon et on est en train de se mettre en combinaison, en maillot de bain pour aller s'immerger, c'est juste incroyable. J'ai fait un baptême de recycleur, et juste après, j'ai fait, on va dire, une initiation donc au tir sur cible.
D'accord.
J'étais avec Marine, avec qui on fait le podcast, et c'était trop un chouette moment, toutes les deux. On allait
Trop
chacune de
bien.
nos tours, du coup, s'immerger. Donc, en fait, l'idée, c'était, voilà, on avait une ceinture de plomb pour pouvoir descendre un peu plus facilement. On s'accrochait à une gueuse, donc, qui est un poids qui était dans le fond de la piscine. Donc, tu t'accroches à cette gueuse, tu prends ton temps, tu mets le bras bien, bien droit, comme nous disait, du coup, la personne qui était en charge de ces initiations-là, et tu prends ton temps pour tirer. Et en fait, je suis remontée et je me suis dit waouh. Et je pense donc un peu comme toi, j'ai eu un déclic en me disant mais c'est génial ce sport. Je n'avais jamais tiré avant. Alors mon papy fait partie d'un stand de tir, donc
D'accord.
il me parle beaucoup de tir et tout. C'est voilà, je l'ai déjà accompagné et tout, mais j'ai jamais trop tiré avec lui. Peut-être quand j'étais petite, mais c'est pas un truc qui m'attire énormément. J'ai jamais fait de tir à l'arc ou quoi. Mais là, c'était et c'est ça que j'aimerais que qu'on discute ensemble, voir si t'as le même truc. Mais je me suis dit, ok, c'est pas forcément le tir là qui est en train de me plaire, mais par contre, c'est le fait de se poser dans l'eau, de prendre son temps, de se concentrer, d'oublier que tu es en apnée. Donc je me dis, mais en fait, si ça se trouve, tu peux tenir beaucoup plus longtemps que si tu t'essayais de faire de l'apnée parce que tu t'essayes de contrôler. Là, en fait, tu es juste focalisé sur cette cible, quoi. Et tu tires, et je sais pas, t'es heureux, tu remontes, t'as touché la cible, et voilà. Enfin, c'était vraiment formidable, quoi.
Alors moi, c'est exactement la même sensation pour le coup, parce que c'est pareil, je suis pas forcément, j'étais pas forcément attirée par l'objet en lui-même pour le coup, mais c'était plus pour déjà le fait de pouvoir faire de l'apnée un peu et voir ce que ça allait donner comme sensation. Et c'est vrai que exactement ce que tu décris quand tu te poses en bas et que tu te concentres à viser, et quand après, il y a évidemment la satisfaction de pouvoir voir où ça va quand t'en fais depuis un petit moment, mais juste cette sensation où tu es en bas et tu profites du moment et tu profites de la sensation, je trouve ça incroyable justement parce que tu te concentres sur rien d'autre. Et c'est vrai que quand il y a pas mal d'anxiété ou enfin quand on est anxieux ou ce genre de choses, ça peut aider justement à complètement enlever son esprit de ses angoisses d'être sous l'eau ou ce genre de choses et de se concentrer vraiment sur OK, je suis là, je fais ça. Et il faut que j'y arrive. Et quand tu l'as fait, c'est là où les pensées peuvent revenir. Mais en attendant, tu es vraiment dans ta petite bulle. Et c'est vraiment trop bien pour le coup.
Ça. Et toi, du coup, est-ce que ça t'a fait complètement arrêter la plongée bouteille ou quand même, c'est totalement, on est d'accord, c'est totalement différent. Tu fais pas ça pour les mêmes raisons, j'imagine.
Non, ouais, c'est complètement différent. Après, j'avoue qu'en club, à l'année, je fais plus que du tir sur cible. Mais par contre, mes plongées bouteilles en vacances, ça restera toujours. Ça reste mon. Enfin, c'est. Je ne sais pas comment expliquer, mais ma relation à la plongée est vraiment hyper importante pour moi, pour le coup. Mais c'est vrai que toute l'année, au niveau de la stimulation, parce que c'est vrai que quand on atteint un certain niveau de plongée, on n'a plus forcément. Enfin, moi, j'avais pas forcément envie de passer mon niveau 4 tout de suite ou ce genre de choses. Et en piscine, j'étais pas prioritaire non plus sur les bouteilles parce qu'il n'y a pas forcément. Du matériel pour tout le monde. Donc, je me retrouvais à beaucoup nager et donc je m'ennuyais un peu. Et c'est vrai que le tir, ça me permet de m'épanouir toute l'année et puis l'été de profiter de mes plongées. Mais c'est pas du tout la même sensation pour le coup et les mêmes raisons. Il n'y a rien à voir pour le coup. Mais j'adore. Franchement, c'est génial.
Est-ce que le tir sur cible se fait en mer ou uniquement en piscine?
Alors, il y a en milieu naturel, pas en mer, en tout cas à ma connaissance, pas en mer. En milieu naturel, en fait, il y a des tireurs du côté du Rhône-Alpes, si je ne dis pas de bêtises, qui tiraient enfin, vers Annecy et qui se disaient que franchement, le cadre est tellement beau, ce serait vraiment cool de pouvoir tirer en lac. Et qui ont développé une structure qui se démonte et qui peut se remonter dans d'autres endroits en milieu naturel pour pouvoir tirer. Et il y a eu, je crois que c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises, la première épreuve de biathlon en milieu naturel. Donc ça commence de plus en plus à se faire justement parce qu'ils ont réussi à pouvoir développer cette structure-là et attirer sur des cibles. Par contre, en mer, je pense que c'est un peu plus compliqué dans le sens où, et c'est là où la chasse vraiment va être plus privilégiée, parce qu'en tir, on a quand même besoin que la cible reste à un endroit précis. Et c'est vrai qu'en mer, il y a du courant, il peut y avoir aussi une moins bonne visibilité forcément qu'en piscine, ou même en milieu naturel, dans certains lacs, il peut y avoir une moins bonne visibilité aussi. Donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Après, c'est aussi là où ça peut être intéressant. Intéressant en milieu naturel, de pouvoir se mettre d'autres challenges avec la visibilité. Mais le courant va beaucoup impacter ça pour le coup.
C'est sûr, ouais, tu as moins ces problématiques-là en piscine. Et tu parlais, donc tu disais, toi, tu fais pas de compétition, mais tu as parlé de championnat de France. Donc je
Oui.
comprends qu'il y en a de la compétition.
Oui.
Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes pratiquent ces compétitions?
Oui, bah, d'ailleurs, la compète arrive bientôt, puisqu'elle va arriver en juin. C'est le week-end de la Pentecôte en juin, et ça va être d'ailleurs près d'Annecy. Donc, et il y a à peu près 70 à 80 compétiteurs qui vont y aller pour pouvoir bah, justement se battre pour les places de champion de France. Et d'ailleurs, parce que tout à l'heure, on parlait aussi des personnes qui ont connu le tir sur cible, il y a aussi des gens qui sont arrivés par le tir sur cible dans le milieu subaquatique. Je connais par exemple Marine, qui est dans mon club, qui est trop modeste pour le dire, mais qui a été quadruple championne de France dans sa catégorie, donc dans les quatre disciplines, les trois disciplines, pardon, ou les quatre. Mais en tout cas, elle a été championne de France en 2019, en 2016, en 2018, si je dis pas de bêtises. Et en 2019, c'était en biathlon, super biathlon, sur le combiné. Donc le combiné, c'est pas une épreuve, ça va être la somme de l'ensemble de tes épreuves qui vont te mettre dans un classement général. Je sais pas si j'ai été très claire, tu me dis sinon.
C'est très clair.
Mais et donc du coup super biathlon, biathlon et je crois qu'ils avaient fait des bons et en précision du coup et du coup au combiné aussi, c'est pour ça qu'elle est quadruple championne. Et pendant les championnats de France qui ont lieu une fois par an, ils vont donc il y a plein de gens de plein de régions différentes qui viennent tirer. Pareil, des arbitres de plein de régions différentes qui viennent tirer. Et les compétiteurs viennent en équipe avec des capitaines. Donc là, par exemple, ceux qui vont pour... Donc ce qui est marrant, c'est que l'équipe qui va y aller, en tout cas pour ceux que je connais, c'est un mélange de plusieurs clubs. Donc ça me fait beaucoup rire. Il y a le Coq à Courbevoie. Il va y avoir aussi le club d'Issy-les-Moulineaux, le club d'Asnières aussi. Donc il y a deux capitaines. Il y en a une qui vient, donc qui est Nathalie, qui vient du club d'Asnières, qui est tireuse et qui est aussi juge fédéral de niveau 2. Et il va y avoir aussi Xavier. Donc, ce qui est très rigolo, c'est que Xavier, c'est un papa, en fait, d'une compétitrice. C'est pas du tout quelqu'un qui vient du tir. Et on en a comme ça des cas, bah, justement, comme Xavier, qui sont complètement extérieurs à la discipline, mais qui, par un proche, vont vachement s'investir après et pouvoir même se découvrir. Par exemple, je pensais à, quand tu parlais des gueuses tout à l'heure, il faut savoir que le matériel aujourd'hui, c'est fait artisanalement, que ce soit les gueuses, les pas de tir, comme je te disais, il n'y a pas encore de normes. Et les gueuses en France, il y en a beaucoup qui s'appelleront les gueuses d'Annie. J'ai appris ça aussi récemment. Les gueuses d'Annie, c'est en fait, ça a été fait par un monsieur qui s'appelle Danny, qui était le père d'un compétiteur, qui a été champion de France aussi, qui s'appelle Sylvain Ben Toutal, si je dis pas de bêtises, je suis désolée si Ben Toubal, pardon, si j'écorche son nom, qui du coup lui a fait les gueuses. Il a fait beaucoup de gueuses en Île-de-France et aussi beaucoup de gueuses en France. Et il a fini par se prendre vraiment en amour pour la discipline et il est devenu arbitre, alors qu'à la base, bah, il n'était pas du tout dedans, il n'était pas du tout compétiteur. Donc c'est marrant de pouvoir avoir des cas justement de gens qui s'agrègent comme ça à la discipline.
Bah, je pense que si c'est une discipline en effet récente et qui est peut-être pas encore très connue, parce que tu vois, du coup, moi, je t'avais dit, je vais essayer de voir s'il y a des clubs en Bretagne. Donc voilà, il n'y en a pas dans ma ville, malheureusement, parce que sinon, je pense que clairement que je me serais inscrite. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'encore assez récent. Donc oui, j'imagine, du coup, tu as ce côté un peu familial.
Ouais,
Et voilà, il n'y a pas grand monde qui pratique ce sport, qui est quand même, tu vois, pas très connu, je pense.
carrément.
Donc ça m'étonne pas que voilà, les gens sollicitent leurs proches
Ouais.
pour. Donc
Ouais.
ça doit amener une chouette ambiance,
Ah, il y
j'imagine.
a une super ambiance pour le coup. Mais d'ailleurs, en parlant de la Bretagne, en Bretagne, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de clubs avec pas mal aussi du coup de chasseurs. Et c'est une des régions où il y a le plus d'écoles de tir sur cible et où en fait ils mettent des créneaux pour les jeunes. Parce que c'est vrai que, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est compliqué parce que les arbalètes non perforantes. Bah, les arbalètes non perforantes, c'est ce que notamment ceux avec quoi tu as tiré au salon, c'est celles qui rebondissent sur la cible, qui
D'accord.
s'enfoncent pas normalement. Donc, et ça, il y en a pas. Tous les clubs sont pas forcément équipés. Moi, mon club, par exemple, est pas équipé de ces arbalètes-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a la limite des 14 ans. Et en Bretagne, il y a beaucoup d'écoles de tir qui en fait organisent des séances aussi qui sont dans la journée. Par exemple, le mercredi à 16 h ou ce genre de choses pour permettre à des jeunes de pouvoir venir. Même le samedi, des fois, dans certaines régions, je crois que c'est dans l'Est où il y a quelqu'un qui les fait le samedi. Donc, c'est vrai qu'il y a une super ambiance, même au niveau interclub. Par exemple, en Ile-de-France, j'ai participé à pas mal de compètes en tant que pour filer un coup de main justement sur les arbitrages, etc. Et je me suis retrouvée à arbitrer avec des gens qui n'étaient pas du tout de mon club. Et ils m'ont appris justement à arbitrer, à pouvoir gérer un chrono, à regarder comment on remplissait des fiches, etc. Et maintenant, à chaque fois qu'on se revoit en compète, je suis super contente de les revoir. Parce que même si, entre guillemets, il y a le fait que nos clubs sont en compétition, que les gens dans nos clubs sont en compétition, ça reste un sport où on partage vachement et où le partage est hyper important sur plein de points. Je vois, par exemple, dans une autre ville, à Sarcelles, le club d'ici Limonino avait donné des autocollants à coller sur les plastrons pour la compétition parce qu'ils n'en avaient pas. Et ils prêtaient aussi leur pas de tir, etc., pour pouvoir permettre aux clubs qui n'avaient pas beaucoup de matériel de pouvoir accueillir un grand nombre de participants. Il y a aussi eu du coup des baptêmes pendant cette compétition d'Andisport où notamment Nathalie, dont je parlais tout à l'heure, a fait des baptêmes pour des personnes handicapées qui faisaient partie du club de Sarcelles, justement là où se passait la compétition. Donc il y a une vraie entraide pour le coup, en parallèle de la compétition, parce qu'évidemment, ils ne faisaient pas la compète, mais ils étaient dans un autre bassin où du coup, il y avait des baptêmes en même temps. Donc c'est ça que je trouve génial pour le coup.
Top. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même le fait de s'immerger, d'aller un petit peu profond, ouais, même si on dit un mètre, de tenir en apnée. Est-ce que c'est donné à tout le monde?
Alors là, en tout cas, les handisports dont on m'avait parlé, c'était des handicaps moteurs plutôt. Ils étaient avec des accompagnants et c'était des personnes qui faisaient de la plongée. Donc, il y avait déjà quand même une connaissance, en tout cas, du milieu à ce moment-là, même si effectivement, il y avait de l'apnée, il y avait quand même une connaissance du bassin, de l'environnement. Et c'est vrai que ça, c'est un critère qui est quand même assez important à prendre en compte parce que après, ça va dépendre des handicaps, mais selon certains handicaps, il faut quand même que l'environnement soit rassurant pour la personne et qu'il y ait aussi des personnes de confiance en tout. Bon, là par exemple, c'était les initiateurs. Bon, souvent c'est le cas en baptême qui chargeaient l'arbalète, pardon, pour pouvoir la donner à la personne qui tirait. Donc, déjà, il y avait plus ce stress d'avoir à armer l'arbalète, à la tenir en main, etc. Il fallait juste l'aider à s'immerger, qu'elle puisse tirer et profiter de son moment. Et après, tout ce qui était armé, désarmé, enlever la flèche, ça, c'était pas pris en compte pour le coup dans l'expérience. Donc, c'est des choses en fait qui vont se faire au fur et à mesure des séances, mais c'est vrai que dans un baptême, c'est déjà un stress qui est écarté pour pouvoir permettre à la personne handicapée de pouvoir profiter de son moment à fond.
Génial. Et toi, comment tu te sens quand tu es sous l'eau, quand tu fais ces sessions de tir? Qu'est-ce que tu ressens en fait en pratiquant cette activité-là?
Alors, déjà, il y a deux éléments. C'est que quand je fais mes entraînements en apnée, je suis extrêmement stressée. Alors, ce qui était marrant, parce que j'ai pas de problème justement à plonger à des grandes profondeurs. Ça ne me dérange pas du tout d'aller à 40 mètres et j'ai jamais eu peur, entre guillemets, de plonger à 40 mètres. Par contre, je me suis rendu compte qu'à 5 mètres de profondeur, je commençais à paniquer comme pas possible. Et donc, du coup, c'est comme ça que, les initiateurs de mon club se sont rendu compte que j'avais un problème avec la profondeur. Enfin, un problème. J'étais très nerveuse et très stressée à l'idée de partir en profondeur sans mon matériel, sans mes bouteilles. Et de me faire confiance, de faire confiance à mon corps. Donc, du coup, il y a tout ce travail-là de pouvoir apprendre à se connaître aussi sous l'eau. Mais ça, c'est plus un travail d'apnée. Mais ce qui est super, c'est que les gens prennent quand même le temps de s'adapter à toi, alors qu'à la base, on est quand même là que pour tirer, mais de s'adapter à toi pour te permettre de vivre la meilleure expérience possible. Et ce qui est drôle, c'est que par contre, quand je passe au tir, ce stress-là, c'est quand on est dans un bassin profond. Moi, le bassin d'Anières, il est particulièrement profond par rapport aux autres. Il y a toujours quand même ce petit stress. Mais il est quand même moindre quand je suis accrochée à la gueuse et que je tire. Par contre, une fois que j'ai arrêté de tirer, là, c'est là où je me remets à réfléchir et c'est pas bon. Mais quand je suis à ma gueuse et que je tire, il n'y a plus de stress. Et je peux rester très longtemps sur le moment sous l'eau, alors que si je ne l'avais pas, je panique pour le coup. Donc voilà, c'est tout un. Je pense qu'il y a tout un travail vraiment au niveau de l'apnée, en tout cas me concernant, pour pouvoir me détendre et profiter de mon moment et apprendre à me connaître aussi. Et après. En tout cas, l'expérience du tir, moi, je la trouve géniale.
Mais tu disais, par contre, pour toi, Pas besoin non plus d'être un très grand apnéiste pour pratiquer ce sport. Quoi.
Pas du tout. Bah déjà, la première chose qu'on m'avait dit, c'est qu'on a tous des capacités déjà de base innées, qu'on les connaisse ou pas, qui nous permettent de rester souvent à un certain moment. Et moi, par exemple, on m'a dit que clairement, je n'allais pas au bout de mes capacités et pourtant, j'arrive quand même à rester souvent un long moment. Mais par exemple, dans les épreuves de biathlon et de super biathlon, effectivement, ils font 15 mètres à l'aller et au retour, mais au final, ça reste 30 mètres et c'est faisable par tout le monde, pour le coup. Donc c'est faisable, sachant que du coup, ils font 3 tirs, mais quand ils vont tirer, ils prennent la flèche et ils retournent, et là, ils peuvent respirer entre-temps. Ce n'est pas trois allers-retours où on ne respire pas du tout. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau super élevé d'apnée. Ce qu'il faut, c'est réussir à rester détendu et à ne pas se laisser submerger par la pression. Et c'est ça qui peut être problématique, mais quand même dans toutes les disciplines. Ça doit être pareil. C'est pareil, par exemple, en plongée, on peut se laisser vite submerger, et c'est là où même des personnes qui sont très expérimentées peuvent se retrouver à faire une crise d'angoisse simplement parce que, par exemple, l'air a un peu coupé. Donc non, il n'y a pas besoin d'être un super grand apnéiste pour pouvoir le faire. Bah, c'est ce que l'exemple de Marine est super intéressant pour ça, c'est qu'à la base, elle ne faisait pas d'apnée ni d'apnée à un grand niveau. Et pourtant, ça reste une des meilleures, des meilleures tireuses de France. Quoi. Donc, on peut tous venir de milieux différents et commencer à tout âge aussi. Ça, il n'y a pas d'âge pour commencer et être un très bon tireur non plus.
Est-ce que vous vous entraînez du coup hors de l'eau à tirer aussi ?
Pas du tout. Alors, il y a quand même un certain nombre de règles à respecter de sécurité parce qu'on reste quand même avec du matériel qui peut être dangereux si les règles de sécurité ne sont pas respectées. Parce que, alors, par exemple, moi, il n'y a jamais eu d'accident et depuis que la section est ouverte dans mon club et même dans d'autres clubs, j'ai jamais eu connaissance d'un accident non plus. Donc, à partir du moment où toutes les règles sont bien prises au sérieux et qu'elles sont respectées, il n'y a aucun problème, c'est vraiment pas un souci. Mais une des premières règles à respecter, par exemple, c'est de ne pas enlever. On a tous en fait une petite protection au bout de la flèche qui est aiguisée, donc qui fait comme, alors en perforant, là je parle vraiment de en perforant, qui du coup est aiguisée, on peut se blesser, on peut s'égratiner même comme ça sans avoir à tirer. Il faut jamais enlever ce petit bout quand l'arbalète est en dehors de l'eau pour des règles de sécurité, parce que quelqu'un peut passer à côté, trébucher sur l'arbalète ou ce genre de choses. Donc, il faut faire attention. Mais c'est pareil, je pense, avec des flèches de tir à l'arc, d'ailleurs. Je pense qu'il faut faire attention à bien les laisser dans... Après, j'en fais pas, mais je pense qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses quand il y a des pointes un petit peu... des choses un petit peu pointues. Et quand on est dans l'eau, il faut que l'arbalète reste toujours dirigée vers la cible pour des raisons de sécurité et juste pour être sûr, un truc tout bête, mais qu'avec un autre tireur, on ne va pas se prendre dedans et qu'il ne va pas se prendre l'arbalète et se faire un petit peu mal. Quoi. Donc voilà. Et quand on arbre une arbalète, il faut que personne ne soit devant parce que la flèche peut partir. On peut faire un petit moment d'inadvertance et la flèche peut partir. Là, il peut y avoir un problème. Mais après... Il n'y a pas de malaise au niveau de la sécurité pour le coup à ce niveau-là. Si ces trois règles de base sont respectées, c'est les trois premières choses auxquelles on est confronté quand on arrive, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on ne s'entraîne pas en dehors de l'eau, on s'entraîne que sous l'eau. Après, du coup, quand il y a des adaptations à tous, par exemple, dans mon club, il y a une personne qui ne peut pas tirer dans le grand bassin parce qu'en fait, ses oreilles ne passent pas du tout. Elle a un problème où ça ne passera jamais et du coup, pour ne pas se blesser, elle ne peut pas aller tirer dans ce grand bassin-là. Mais du coup, elle va tirer dans un plus petit bassin où il y a 1 mètre de profondeur. Et donc là, il n'y a pas de problème. Chacun peut profiter de son expérience.
Et toi, tu dis que ça te crée en fait une peur un petit peu d'aller profond sans tes bouteilles. C'est marrant parce que j'ai expérimenté l'apnée il n'y a pas longtemps. Et c'est en effet une toute autre plongée que la plongée bouteille. Je pensais que les bouteilles allaient me manquer. Et finalement, non, parce que c'était une plongée différente, parce que c'est une plongée plus d'introspection. Tu vas moins pour voir les choses à l'extérieur, je trouve, plus pour voir ce qu'il y a en toi, finalement. Mais toi, tu dis, les bouteilles me manquaient et tout. Pourquoi tu continues ce sport ? Qu'est-ce qui te fait aimer ce sport ? Et que t'en parles avec tant d'énergie et de passion ?
Alors déjà, il y a quand même... On va être honnête, 50% d'humains là-dedans, parce que je suis entourée de gens formidables. J'ai vraiment j'ai un club qui est vraiment génial et qui a été hyper accueillant, mais au-delà du club, comme on s'en parlait, il y a d'autres clubs qui ont été super accueillants. Et c'est vrai qu'il y a une telle ambiance. Alors après, c'est vrai que dans tous les sports subaquatiques, il y a une très bonne ambiance. Il y a quand même quelque chose de très convivial qu'on va retrouver dans tous ces sports-là. Même les chasseurs, par exemple. Qui des fois pratiquent pas du tout dans le cadre du sport, mais vraiment dans le cadre de la chasse. J'ai rencontré des chasseurs en Bretagne qui ont été adorables avec nous et qui. Enfin, c'est vrai que dans tous les sports ou en tout cas les activités subaquatiques, il y a vraiment une ambiance très particulière et très humaine. Donc...
Je pense qu'on l'a vu sur le salon de la plongée. Ouais. Hein, enfin, pour moi, j'étais agréablement surprise de cette ambiance très familiale, ouais, très clairement. Sympa. C'était un super moment pour moi le salon de la plongée.
Bon, bah, tant mieux. C'est toujours bien quand ça se passe comme ça. Et du coup, au-delà de l'humain, la discipline, bah, c'est comme on se disait, les sensations sont carrément différentes. Et c'est vrai que tu disais que l'apnée, il y avait une partie d'introspection. Et je trouve que c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et le tir, il y a une autre partie justement dans le dépassement de soi. Alors, ce qui est très marrant, c'est que par exemple, moi, je ne fais pas de compète parce que je ne me sens pas encore prête. Mais c'est vrai que, comme on m'a dit, on vient pour le plaisir au début. Et puis après, il y a une envie, mais comme dans tous les sports, de se dépasser et d'être de plus en plus précis qui arrive. Et donc, du coup, bah, forcément, moi, le dépassement de moi là-dessus, en tout cas, pas forcément dépassement de soi, mais plus apprendre à se connaître et à apprendre à pouvoir se développer, je trouve ça génial, quoi. Et surtout que c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est pareil en plongée ou ce genre de choses, mais l'accessibilité est vraiment super cool parce que qu'on soit opulent, pas opulent, qu'on soit vieux, qu'on soit pas vieux, le matériel peut être adapté. Moi, par exemple, je tire avec une petite arbalète parce que je suis pas très grande. C'est une 90 cm parce qu'il y a différentes tailles pour le coup. Et je tire aussi avec des sandos qui sont souples pour pouvoir le faire. Mais par exemple, pour des personnes qui ont un peu plus de force comme les hommes, il y a des sandos plus courts et des sandos qui sont plus durs, mais qui permettent du coup d'avoir une meilleure vitesse. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, l'entraide, le partage, ça c'est vraiment incroyable. Mais l'humain fait beaucoup là.
Et du coup, oui. Noémie, tu parlais du fait que tu avais une relation particulière avec la plongée. C'est quoi cette relation particulière ?
C'est juste que, comme tout plongeur, je pense, je ne sais pas comment expliquer, mais je me souviendrai toujours de mon tout premier baptême en piscine quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, je crois. J'étais en piscine à 1 mètre de profondeur et je ne saurais pas comment expliquer, mais pourtant, la piscine, il n'y a rien de foufou, hein, c'est des carreaux, il y a du chlore, enfin, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, mais la sensation de respiration dans mon détendeur a été. Je ne sais pas comment expliquer, mais comme une seconde naissance pour moi. Ça a été vraiment incroyable et je suis tombée complètement amoureuse, même pas forcément que de la plongée en mer, mais juste de la plongée en elle-même, de la sensation que tu as avec tes bouteilles. Et ça ne m'a jamais quittée. Et c'est pour ça que l'apnée, j'avais peur de ne pas forcément accrocher. Ouais. Et je pense que avec Yves, j'apprends à pouvoir apprécier d'être avec moi-même sous l'eau. Juste moi et pas forcément autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai l'impression, entre guillemets, de tromper mes bouteilles, je pense.
Et c'est peut-être là où le tir sur site, du coup, est une bonne transition vers l'apnée. Parce que du coup, toi, tu as ce truc de te dire, non, pour moi, la plongée, c'est avec les bouteilles. C'est ça que j'aime, en fait, respirer sous l'eau. C'est ça. Et comme on se disait, quand tu vas tirer, finalement, tu oublies limite que tu es en apnée. Ouais. Et tu fais autre chose, tu te concentres sur autre chose et ça passe mieux, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça en plus. Et c'est pareil, la sensation du premier tir, je m'en souviendrai toujours aussi. C'était à la fois bizarre et à la fois enivrant. C'était génial, quoi. Donc, je sais pas toi ce que ça t'a fait au salon de la plongée, mais je me souviendrai vraiment toujours de cette première sensation. Et c'est marrant parce que quand je tire pas pendant longtemps, par exemple, là avec le Covid, tout simplement, j'avais l'impression, au retour du Covid, de tirer encore pour la première fois. Et ça, je trouve que c'est grisant aussi pour le coup. C'est de se retrouver cette sensation, cette première fois, à chaque fois qu'on s'accroche à la gueuse et qu'on est là à se concentrer à pouvoir tirer.
Moi, j'avais ce truc de me dire, je suis bien là, quoi. Enfin, laissez-moi là, quoi. Je suis tranquille.
Non, mais c'est ça.
Bon, ça, pour le coup, on l'a aussi en plongée bouteille, quoi, de se dire, on est sous la surface, on est dans un autre monde, on est sur une autre planète. Et carrément. Moi, c'est qu'à chaque fois, quand je reviens, je me dis, ouais, j'étais partie là, hein. J'étais très, très loin. Dans un monde où, on est connecté, où nos téléphones sonnent tout le temps, qu'est-ce que ça fait de bien.
Ouais, non, mais c'est clair. Et puis en plus, ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, tu me demandais pourquoi j'aimais le tir, et il y a quelque chose d'autre qui me revient, c'est que c'est une discipline du coup où chacun est acteur du tir sur cible de la discipline comme elle est encore en construction. Par exemple, il y a quelques années, ils tiraient, alors ça paraît tout bête, hein, mais il y en a qui ont connu le tir à 4 mètres, donc à 1 mètre de distance. Ah oui, puisque ça, je ne l'ai pas précisé. Quand on tire, on est à peu près 3 mètres de la cible. Enfin, on ne sait pas à peu près, on est à 3 mètres de la cible. Donc, il y a 3 mètres qui séparent le bout de la flèche et la cible. Et avant, il y avait 4 mètres qui séparaient le bout de la flèche et la cible. Et les tireurs tiraient avec des arbalètes qu'ils pouvaient ajuster. Donc, il y en a qui ont connu les arbalètes qui avaient des flotteurs, qui avaient des viseurs, qui avaient ce genre de choses. Donc, il y avait quelque chose vraiment de très manuel et de très, bah, de très fait maison, en fait. Et encore maintenant, même si au niveau, comme on a voulu standardiser la discipline pour pouvoir la rendre accessible à tout le monde et que tout le monde puisse être sur un pied d'égalité au niveau de l'arbalète, il y a quand même encore ce fait maison où chaque tireur qui est plus ou moins investi va chercher des solutions pour améliorer à son niveau des choses. Par exemple, le salon de la plongée. Après le salon de la plongée, on a fait une réunion avec tous les participants pour voir comment on pouvait améliorer l'expérience des baptêmes après. Donc, un truc débile, mais pour les petits, il y a quelque chose qui est envisagé en mettant des petits personnages de Disney ou des poissons sur lesquels tirer, qui est plus stimulant pour des enfants, par exemple. Donc,
Vraiment.
voilà, c'est vrai que chacun est acteur et ça vraiment, ça permet de rester créatif aussi dedans et de se sentir un peu important aussi, quand même, à son niveau, parce que moi, par exemple, je ne suis pas non plus une grande tireuse ni quelqu'un bah, qui a commencé depuis. Enfin, j'ai commencé depuis il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pas
Ça
non
fait combien de
plus.
temps que tu pratiques?
Alors, en incluant les pauses de Covid et de mémoire, etc., ça fait 4 ans en tout que j'ai commencé. Mais réellement, cette année, c'est ma première année où j'y vais très régulièrement. Très, très régulièrement. J'y suis quasiment toutes les semaines. Donc,
J'ai
voilà.
l'impression que c'est comme une dope, quoi, comme une
Ah
drogue,
ouais,
quoi.
clairement. Clairement, c'est le moment le vendredi. Bah là, normalement, juste après, bon là je peux pas parce que du coup je suis pas proche de mon club, mais normalement, juste après le vendredi, la fin de la semaine, on enchaîne, on va voir les copains et après la séance, on se fait un apéro. Donc il y a vraiment quelque chose de super humain. Et puis maintenant, les personnes avec lesquelles je tire, c'est devenu des amis.
Génial.
Donc
Mais
voilà.
c'est vrai que moi, j'étais vraiment surprise par cette activité parce que j'ai l'impression que, tu vois, les activités de tir, bon, tu vois, je parlais de mon papy tout à l'heure qui fait du tir, j'ai l'impression que les activités de tir, c'est quand même des activités un peu vieillissantes, quoi, qui ne sont pas forcément très sexy, très attractives, tu vois, pour voilà, des gens de notre âge, on parle plus de surf, de kitesurf, de choses comme ça.
Ouais,
Et
c'est clair.
donc, je me disais, le tir sur cible, qu'est-ce que ça. Ouais, ça peut. Vraiment, je me suis dit, c'est peut-être chiant. Donc, déjà, tu m'en as parlé avec tellement d'énergie, j'étais là, OK, bon, ça m'intrigue cette histoire, je vais quand même aller me mettre à l'eau tester. Et là, c'était, mais waouh, découverte de ouf, quoi, c'était génial. Et je pensais pas que le tir pouvait être aussi cool, quoi. Et bon, voilà, les gens qui écoutent, si jamais vous êtes intrigués, bah, franchement, testez, allez-y. Je pense que ça fait quand même 40 minutes qu'on parle de tir sur
Ouais.
cible. Donc c'est qu'il y a quelque chose derrière, ça intrigue un petit peu.
Au-delà de ça, les clubs de plongée sont vachement ouverts à l'ouverture de ce genre de section. Moi, je vois par exemple, bah, du coup, mon club, c'est Asnières-sur-Plongée. Donc, à la base, c'est un club de plongeurs. Il y a pas mal d'apnéistes aussi. Et ils ont été d'un grand soutien, parce que par exemple, la présidente ne tire pas du tout, mais elle était présente à la compétition d'Asnières cette année. Donc, ils sont quand même vachement présents et ils soutiennent vachement moralement et financièrement aussi les sections. Donc, parce qu'ils sont super open à pouvoir développer de nouvelles activités et puis pourquoi pas venir tester aussi derrière. Donc ça, c'est vraiment super chouette pour le coup. Et en autre anecdote, par rapport au salon de la plongée, j'ai un copain qui s'appelle Gilles, qui est dans l'armée, et je trouvais ça super marrant. On se croise en fait à tous les salons de la plongée, et il a testé pour la première fois cette année le tir sur cible. Et au début, ils se disent, bah, forcément, c'est un militaire, ils ont connu des expériences de tir, justement. Et il a adoré. Et c'est pas du tout la même sensation. Et en plus, il m'a dit qu'il s'était vraiment pris. Il nous a dit, hein, parce que c'était pas qu'à moi, qu'il s'était vraiment pris au jeu, en fait. Qu'au début, on se dit, bon, ça va. Et puis, en fait, tu te prends au jeu, même si bah, tu as l'habitude de pouvoir tirer avec autre chose, en fait. Parce que bah, c'est des nouvelles sensations, c'est des nouvelles choses. Et c'est hyper stimulant aussi sur d'autres points de vue. Donc c'est chouette. C'était marrant de voir ça. Parce que pour la petite anecdote, il est pas jeune, hein, Gilles. Il est assez âgé. Donc voilà. Je dirais pas ça.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie d'essayer?
de venir essayer. En fait, vraiment, il n'y a pas de... Comme je disais, moi, j'ai débarqué là-dedans complètement au hasard et j'ai été super bien accueillie. Et au final, je ne suis jamais partie. Et vraiment, tous les clubs dans toutes les régions... alors, moi, je connais plus l'Île-de-France, du coup, mais tous les clubs en Île-de-France sont hyper accueillants et permettent à tout le monde de faire des baptêmes. Nous, je vois à Agnières sur... toutes les semaines, on est prêt à pouvoir accueillir des baptêmes. Donc, il n'y a aucun souci. Par exemple, ce qui est marrant, c'est que dans mon club, ils sont quasiment tous initiateurs. Parce qu'en fait, à partir du moment où on voit que quelqu'un est vraiment investi, est vraiment content, on lui fait passer ses niveaux. Il n'y a pas d'histoire de rester dans son petit truc. Et il y a pas mal d'initiateurs qui commencent le tir à Agnières et vont développer d'autres sections dans d'autres clubs, mais continuent à tirer dans ou pas forcément. Mais du coup, ça permet de développer la discipline aussi. Et c'est franchement, c'est ouvert à tous, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on soit dans des situations entre guillemets, qu'on soit corpulent ou pas. En gros, moi par exemple, je le suis, il n'y a aucun problème avec ça. Et il n'y a pas besoin d'être un super apnéiste, il n'y a pas besoin non plus d'être hyper précis pour pouvoir apprécier. Moi, par exemple, je tire encore, pas forcément dans la cible, mais je m'éclate toujours autant. Donc vraiment, venir essayer. Il n'y a aucun problème pour essayer. Je suis sûre que vous n'allez pas décrocher non plus, ou pas vouloir décrocher.
Et c'est cool parce que, comme tu dis, ces clubs sont sur Paris, quoi. Donc, c'est
ouais.
Voilà.
Il y en a partout.
Ça te permet, c'est des activités qui te permettent quand même d'avoir ce lien avec l'eau, qui, moi, je trouvais formidable et fait un bien fou. T'es en apesanteur. Ouais. Tu disais, tu sens plus ton corps. Enfin, c'est l'eau est vraiment un élément qui fait du bien. Et ouais. On n'est pas obligé d'être au bord de la mer pour profiter, bénéficier de ça. En tout cas, sur les sensations, quoi. Sur ce qu'on voit. Bon, comme tu disais, les petits carreaux, il y a un moment, peut-être qu'il y en a marre. Mais c'est pas pour ça que tu le fais. C'est pour ce que tu ressens, pour ce que tu vis et pour le bien-être que ça t'apporte, quoi. Donc génial.
Et puis, par exemple, tu vois, si on en a marre de la piscine, il y a quand même des zones comme des carrières ou même des lacs, par exemple, où on peut maintenant aller tirer en milieu naturel. Donc, c'est juste des initiatives qui sont en train de commencer, justement. Mais quand ce sera développé, ça permettra à tout le monde d'y trouver son compte, qu'on préfère être en piscine, en mer ou pas. Et c'est ça qui est cool. C'est que tout le monde, en fait, y trouve son compte, peu importe ce que tu fais.
Génial. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir partagé tout ça avec nous.
Merci à toi. C'était une super expérience et puis une super rencontre aussi, je tenais à te le dire.
C'est un bon épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt.